je me présente, je suis Cécile Goy, je suis enseignante-chercheure à l'université François Rabelais de Tours, dans un département qui s'appelle Sociolinguistique et Didactique des Langues, SODILANG. Je ne suis pas une sociolinguiste, je suis plutôt didacticienne du français langue étrangère et notamment langue seconde, parce que avant d'être enseignante-chercheure, j'ai été pendant très longtemps enseignante, professeure des écoles, chargée de l'enseignement aux élèves nouvellement arrivés en France, c'est-à-dire les enfants étrangers qui arrivent sur le territoire qui ne parlent pas le français. Donc j'intervenais à la fois dans le premier et dans le second degré, donc au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, et j'étais coordonnatrice départementale, donc j'ai conçu avec mes collègues, mis en place un dispositif d'accueil pour les nouveaux arrivants, à la fois dans l'élémentaire et dans le collège. J'étais aussi formatrice à l'IUFM, formatrice en ce qu'on appelle formation générale, c'est-à-dire psychologie, sociologie et philosophie de l'éducation, parce qu'en fait, je suis dans un département de sociolinguistique et didactique des langues, mais j'ai fait mes recherches dans la discipline, dans la matière des sciences de l'éducation. Donc, avec ma collègue Emmanuelle Huvert, qui était intervenue l'année dernière dans ce même genre de formation, on travaille sur la question de l'évaluation, notamment en didactique des langues. Ça va être évidemment le sujet de notre journée. Alors, la problématique de cette journée, elle tourne de manière, je dirais, générale, autour de l'évaluation en contexte scolaire, notamment sur la didactique des langues, autour, je dirais, des liens entre le socle commun et le CECRL. La problématique ne va pas être traitée comme un point à un moment donné. Hein. Elle va traverser, je dirais, l'ensemble de notre travail commun aujourd'hui. On va essayer de voir quelles seraient les contradictions. Alors, les contradictions, pas seulement dans les liens entre socle et CECRL, mais aussi les contradictions dans lesquelles on peut mettre nos élèves ou se mettre nous-mêmes quand on évalue, notamment à certains moments où on fait construire des apprentissages et qu'on est mis en demeure de les évaluer d'une manière sommative ou certificative, qui n'est pas forcément très compatible avec la progressivité des apprentissages et les dynamiques des apprentissages. On va essayer de voir aussi quelles seraient les convergences, notamment dans effectivement ces liens entre socle commun, mais je dirais plus particulièrement compétences hein, que socle commun, parce que bon, le socle commun, c'est un outil institutionnel dont il faut qu'on s'empare, hein, puisqu'on, en tant que fonctionnaire de l'État, il est bien évident qu'il faut s'en emparer, qu'il n'est pas si mal fait que ça à certains égards, mais que pour d'autres, il est à questionner, en tout cas, au moins à questionner. Mais on verra, on essaiera de voir, en tout cas de se dire en fin de journée, quelles convergences on a pu remarquer les uns, les autres ou ensemble. Comment tout cela s'organise pour la didactique des langues et notamment la question de l'évaluation de la compétence langagière, en sachant qu'on est toujours mis en difficulté quand on évalue les langues ou tout ce qui est communicationnel, c'est que notamment pour l'évaluation, mais pas seulement. Par exemple, quand on veut construire une progression, une programmation, quand on la fait en mathématiques, on peut aller du plus simple au plus compliqué. Hein, c'est-à-dire qu'on peut commencer par apprendre des tables d'addition, puis faire l'addition sans retenue, puis l'addition avec retenue. Pour les problématiques des langues, c'est un petit peu différent, comme pour toutes les problématiques liées à la communication. C'est qu'à la fois, il faut qu'on travaille des éléments qui soient accessibles aux apprenants qui débutent ou qui sont en cours d'apprentissage, et en même temps, quand on est dans la communication, on est d'emblée dans la complexité. Et que ça, c'est difficile à tenir ensemble, de pouvoir admettre l'idée qu'on est d'emblée dans la complexité quand on est dans la communication, quand on est dans l'échange langagier, mais aussi non-verbal. Et en même temps, il faut bien aussi qu'on puisse rendre une progressivité aux apprentissages qui soit accessible à nos apprenants. Et ça, cette tension-là, elle n'est pas toujours simple. Donc, la question de l'évaluation, elle est aussi interrogée par cela. Et puis, évidemment, comment favoriser, améliorer, accompagner l'évolution des pratiques. Évidemment, Alain, j'ai eu l'occasion d'avoir, je dirais, le profil de la plupart, enfin, d'entre vous. Vous avez tous des pratiques, des expertises pragmatiques, plus ou moins théorisées, d'évaluation, de didactique. Comment tout cela s'organise et comment les uns ou les autres, vous pouvez vous enrichir d'abord par votre propre expérience par rapport à vous-même, d'une manière réflexive par rapport à soi, hein, mais aussi de manière générale, comment les pratiques des uns peuvent enrichir ou non les pratiques des autres. Donc c'est ce qu'on verra aussi au cours de cette journée, en tout cas ce qu'on essaiera de faire au cours de cette journée. Alors le déroulement de cette journée. Tout d'abord, avant de passer vraiment à ce qu'on appelle la didactique des langues, hein, je pense qu'il n'était pas inutile de refaire un petit point sur l'évaluation en général. C'est quoi l'évaluation ? Qu'est-ce qu'on évalue quand on évalue ? Est-ce que c'est une compétence ? Est-ce que c'est une performance ? Est-ce que c'est une possibilité, une capacité ? C'est quoi une évaluation formative ? C'est quoi une évaluation certificative ? Bien sûr, on sait tout ça, mais peut-être qu'on a besoin de le poser à un moment, de se dire, bon, attention, on va partager la journée ensemble, est-ce qu'on veut bien dire la même chose quand on utilise ces mots ? Donc, le point sur les recherches, sur l'évaluation, particulièrement en sciences de l'éducation, je n'aime pas faire ces catégorisations par discipline, hein, simplement pour vous dire que la première partie, ce ne sera pas spécifiquement lié aux langues, mais à l'évaluation en général. Ensuite, on fera le point ensemble sur l'évaluation en didactique des langues. Quelles sont les conséquences des recherches, de l'avancée des recherches, mais aussi des injonctions? Quand je dis injonction, ce n'est pas forcément péjoratif. Hein. Il y a des injonctions qui sont bonnes, mais il y en a qui sont moins. Des injonctions institutionnelles et comment ça se joue sur le contexte scolaire, dans la marge de manœuvre pédagogique qu'ont les enseignants. Et puis, quelles sont, je dirais, les perspectives actuelles sur ces pratiques d'évaluation qui sont renouvelées, notamment, évidemment, avec le CECRL, puisqu'on est vers des pratiques qui intègrent des approches dites actionnelles par compétence et notamment l'approche de la compétence plurilingue et pluriculturelle, ce qui jusqu'à présent n'était pas forcément mis en avant, hein, c'est-à-dire qu'on évaluait en anglais, on évaluait en espagnol, on évaluait en français, langue maternelle, langue étrangère ou langue seconde, on évaluait en occitan, on évaluait en breton, mais on n'évaluait pas forcément les compétences plurilingues, c'est-à-dire comment un apprenant, un locuteur, va nouer, articuler, imbriquer des compétences dans plusieurs langues qui ne sont pas équilibrées, certaines sont partielles, certaines sont très bien maîtrisées, mais comment tout ça, ça s'organise entre soi, et cette dimension de la compétence plurilingue, c'est, je dirais, le CECRL et les chercheurs qui ont participé à son élaboration qui ont introduit cette dimension-là. Ben, moi, je trouve, enfin, je sais pas, mais je trouve que 3 heures, même si on intervient, même si vous avez des activités, c'est quand même très long. Enfin, je sais pas, moi je veux. Moi, je peux parler 3 heures d'affilée s'il faut, hein. Il n'y a pas de problème. Mais je propose qu'on fasse quand même une petite pause. Par contre, on est réglo, c'est-à-dire que si on dit 10 minutes, c'est 10 minutes, quoi. On ne remet pas 20 minutes après pour se remettre en train. Hein. Donc, si vous êtes d'accord. Par contre, bah, c'est moi qui verrai en fonction d'où j'en suis, à quel moment on s'arrête. Voilà. Alors, j'ai demandé à l'INRP de vous faire un petit livret du participant. donc avec un certain nombre de documents qui seront dans le PowerPoint. Je dirais qu'il en manque deux, mais je pourrais vous les envoyer, je peux les envoyer par mail. Donc, vous trouverez des choses dedans. Il est pour vous, hein, vous le garderez, vous le conserverez. Et il y a notamment des extraits, des témoignages, des choses sur lesquelles on va travailler un petit peu ensemble. D'accord, le programme vous convient ? Est-ce que vous avez des questions ou des critiques ou des demandes particulières à faire sur le déroulement de la journée ? Alors, Jérôme Falvin me disait que probablement cette journée passée ensemble est filmée, enregistrée, et que le diaporama sera aussi mis à disposition sur un site, donc vous pourrez y avoir accès a posteriori. Donc, pour débuter de manière un petit peu, puisque Alain disait, je parlais de choses de manière légère, moi je vais amener du lourd, si vous voulez, là. Le socle commun des connaissances, j'ai choisi trois extraits. Hein. Alors, je vais vous les lire à haute voix, vous les avez dans le livret du participant. Le premier, de manière générale. Maîtriser le socle commun, c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école, puis dans sa vie. C'est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société. C'est être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures et l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète. Vous voyez que c'est un vaste programme humaniste, ouvert sur la diversité des langues et des cultures, intégrant l'idée qu'on se forme tout au long de la vie, et notamment pour la question des langues, évidemment qu'on développe tout au long de la vie ses compétences dans sa langue dite maternelle, même si on peut s'interroger sur l'adaptation, l'adéquation du terme à la réalité, hein, mais aussi dans toutes les autres langues. Donc cette dimension-là, elle est particulièrement importante, vous le verrez, pour la dimension de compétences plurilingues, puisqu'on considère que les répertoires des locuteurs se configurent, sont des répertoires non seulement de maîtrise des compétences linguistiques, mais aussi en tant qu'acteur social. Il y a un souci ? Il en manque ? D'accord. Donc, j'ai choisi cet extrait parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il cale un peu la philosophie de ce socle commun, et que de cela, il n'est pas très loin du CECRA. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous le souhaitez, à m'interrompre, à critiquer, à faire des remarques quand vous en avez envie. J'ai choisi un second extrait sur la maîtrise de la langue française. Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, ça c'est l'objectif, hein, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du français, mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de l'institution scolaire. Ça veut dire que, je ne sais pas si parmi vous il y a des enseignants de français, je pense que c'est essentiellement des enseignants de langue, mais il y aurait aussi des enseignants de mathématiques, de physique, de sport ou de SVT. Je dirais attention à ce passage du socle commun, ça signifie que tous les enseignants sont des enseignants de français langue de scolarisation. Ça veut dire que même quand on est prof de maths, même quand on est prof de SVT, parfois même quand on est prof de langue, si on utilise le français pour des consignes, pour des moments d'explication, on est tous des enseignants du français langue de scolarisation. Et si je dis ça, c'est pas uniquement pour des enfants tels que ceux que moi j'aurais accueillis, nouveaux arrivants. Hein. Le français langue de scolarisation, c'est une langue qui se travaille pour l'ensemble des élèves. Pas seulement pour les élèves qui parlent autre chose que le français à la maison, mais pour l'ensemble des élèves. Parce que la langue de l'école, la langue des consignes, la langue didactique et de la pédagogie, c'est une langue particulière et certains élèves ne sont pas du tout familiers de cette langue-là et ont besoin d'un accompagnement à la maîtrise de cette langue dite de scolarisation. Juste une précision, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà ce qui me semble. Sur la maîtrise de la langue étrangère, la communication en langue étrangère suppose la capacité de comprendre, de s'exprimer et d'interpréter des pensées, des sentiments et des faits à l'oral comme à l'écrit dans diverses situations. Donc, on introduit les situations et les contextes de communication. On introduit des éléments de communication, je dirais, informative, mais aussi des éléments de communication interpersonnelle, voire affective. Et elle implique également la connaissance, la compréhension des cultures dont la langue est le vecteur. C'est-à-dire que la langue n'est plus considérée seulement comme un outil linguistique. C'était déjà le cas. Tous les enseignants d'anglais, d'allemand, d'espagnol et d'autres langues travaillent, je dirais, de manière imbriquée, la langue et la culture. Mais là, c'est dit. Langue et culture sont indissociables. Et langue et contexte sont indissociables. Elle permet de dépasser la vision que véhiculent les stéréotypes. Alors, sur la question des stéréotypes, moi, je suis... Quand j'ai commencé en tant qu'enseignante, puis en tant qu'enseignante-chercheur, les stéréotypes, pour moi, c'était à fuir, mais alors vraiment comme la peste, quoi. Fallait casser le stéréotype systématiquement. Les Français avec la baguette et le béret, c'est bon. Et puis, je dirais que petit à petit, à la fois en travaillant sur les recherches d'Henri Boyer, par exemple, ou sur d'autres, je me suis rendu compte que le stéréotype, parfois, c'est bien utile. C'est bien utile comme première entrée dans une langue ou une culture. Évidemment, si on prend le stéréotype comme le but ultime, alors là, c'est contre-productif. Mais pour déconstruire quelque chose, il faut le construire avant. Donc, construire un stéréotype, finalement, culturellement partagé, pourquoi pas ? Si après, on peut se permettre de le déconstruire, notamment avec nos élèves. Donc, le stéréotype, il fait partie, je dirais, de ce qu'on appelle une espèce d'identification différentielle, c'est-à-dire je m'identifie en me différenciant des autres, et du coup, j'identifie les autres en se disant « Ah bah tiens, ce qu'ils font là, c'est pas comme moi, c'est pas comme nous, donc eux, ils sont différents de nous, ou nous, nous sommes différents d'eux. » C'est une première étape à déconstruire, notamment dans l'enseignement de la langue culture. Et finalement, en tout cas moi, ça a été mon évolution, j'ai arrêté de vouloir casser du stéréotype à tout prix pour en faire quelque chose, c'est-à-dire l'accueillir comme tel et puis le déconstruire par des pratiques interculturelles ou transculturelles. Donc voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que les uns ou les autres, vous avez vous aussi des pratiques de classe qui jouent du stéréotype dans tous ces sens-là. Dernier élément, je ne lis pas, c'est simplement pour dire que le cadre commun de référence pour les langues, c'est le cadre de référence pour le socle commun. C'est clairement dit dans le socle commun. Quand on travaille sur les langues, on doit s'intéresser prioritairement au CECRL et notamment, alors là, c'est là où il y a une contradiction, je trouve, enfin en tout cas on en voit une rapidement, c'est qu'on demande la maîtrise du niveau A2 et qu'à certains moments, on va demander, là c'est clairement dit, hein, la maîtrise du niveau A2, niveau de l'utilisateur élémentaire, correspond au niveau requis pour le socle commun. Parfois, on va évaluer en B1. Et puis A2, à quel niveau ? À l'oral, à l'écrit, à l'expression, à la compréhension, sur le verbal, le non-verbal, sur la connaissance culturelle ? C'est pas précis. C'est pas précis. Donc là, en même temps, c'est difficile d'être précis. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut trouver un truc hyper précis. Mais on voit un lien qui est clairement affiché sur le plan institutionnel entre les deux. Maintenant, c'est un peu débrouillez-vous avec ça. Moi non plus. Hein. Je suis. Ah non, non, non. Je ne suis pas choquée. Je dis qu'il y a une contradiction, mais je ne suis pas choquée. Parce que on peut même évaluer au-delà de ça. Parce que, par exemple, si on reconnaît les compétences singulière d'un apprenant ou d'un élève dans une langue qu'il a appris ailleurs qu'à l'école, par exemple, il peut avoir un niveau C1, voire enfin, dans une autre langue, hein, voire dans une langue qu'on lui a enseignée. Ben, c'est contradictoire parce que moi, ce que je vois, c'est que quand je lis ça, je me dis finalement, ce qu'on doit viser, c'est le A2. C'est-à-dire qu'on peut avoir le B1 sur, par exemple, sur la compréhension ou sur l'expression orale ou sur un certain type de compétences et avoir que le A2, voire même pas. Je ne dis pas autre chose que ce qui est dit là, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça n'est pas simple. C'est pas parce qu'on a des niveaux que quand on va dire cet élève, il est de niveau A2, ben, il n'est pas autre chose que ce niveau A2. C'est-à-dire qu'effectivement, il a des compétences qui peuvent être déséquilibrés, soit par type de compétence, soit même à l'intérieur de la même, du même type de compétence, mais sur des champs différents, qu'il n'y a pas forcément adéquation entre la pratique d'enseignement et ce que ça fait en termes d'apprentissage pour l'apprenant, et que tout ça, bien évidemment, ça pose pas forcément des problèmes, parce que moi, je considère que ça crée des tensions, mais des tensions qui ne sont pas forcément problématiques dans le sens négatif de la chose. Hein. Je pense que si on peut assumer le fait que la compétence langagière, de manière générale, elle n'est pas si clairement définie que ça, qu'on puisse dire « Ah, toi, tu es A2 là, toi, tu es B1 là, et toi, je peux t'évaluer là, et je peux rendre compte de ce que tu es au travers de ce que tu montres. » Voilà, c'est simplement ça, je voulais lancer le débat autour de ça. C'est-à-dire, assumons pratiquement d'emblée que nous sommes sur du flou, attention, du flou cadré, encadré, réfléchi, mais des éléments qui nous échappent, et en tout cas dont la maîtrise nous échappe parfois. Ce qui ne veut pas dire que parce que c'est flou, on n'a rien à faire, hein. On peut bien sûr travailler avec ça, et on travaille avec ça. Mais il faut, je dirais, peut-être voir d'emblée que pour chacun, ça n'est pas forcément la même chose que pour son voisin. Je parle des apprenants, je parle des praticiens. Pour chacun d'entre nous, nous avons les mêmes textes, nous ne les interprétons pas de la même manière, et dans nos pratiques, nous ne les mettons pas en œuvre de la même manière. On peut considérer que si on a 10 de moyenne, ça veut dire qu'on ne sait pas faire la moitié de ce qu'on nous a proposé. En tout cas, on n'a pas montré qu'on savait le faire. On a montré qu'on savait faire la moitié. Le reste, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas le faire ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à ce moment-là ? Est-ce que ça ? On ne sait pas. Mais ça veut dire que institutionnellement, on accepte l'idée de valider un niveau en ne montrant en termes de performance que la moitié. Et on sait qu'on n'a pas montré l'autre moitié.
C'est vrai que sur cette question-là, de la question de la compétence, on verra tout à l'heure la distinction entre compétence, capacité, performance, par exemple. Alain touche du doigt l'idée de la récursivité des apprentissages. C'est-à-dire que si on est de l'ordre, le Groux dirait de l'ordre de savoir au pluriel, c'est-à-dire des connaissances, hein, il dit les savoirs de l'ordre des connaissances, ce sont des avoirs. C'est des choses que l'on a et que l'on peut du coup perdre ou oublier. Et c'est le cas, par exemple, pour le lexique. Hein, pour être, il y a un lexique, on va travailler ce lexique. Si on n'a pas une récurrence, une petite piqûre de rappel, on a travaillé, je ne sais pas moi, sur le vocabulaire de la maison, en anglais ou en espagnol. Si on n'a pas une piqûre de rappel de temps en temps, et qu'on ne pratique plus ce lexique, on risque de l'oublier, puisque c'est de l'ordre des connaissances, des choses que l'on peut avoir. Pour autant, on peut faire cette distinction entre les compétences dites actives et les compétences dites passives, que vous connaissez probablement, notamment par rapport au lexique. C'est-à-dire que il y a toujours plus de compétences passives que de compétences actives. Et quand on a appris quelque chose, c'est plus facile de le ramener à la mémoire de manière passive que de manière active. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si vous demandez à un élève, vous mettez une planche avec des animaux dessus, par exemple, et vous dites « c'est quoi ça ?», vous lui demandez de convoquer une compétence active, c'est-à-dire qu'il est capable de rechercher ce que c'est. Donc dans l'évaluation, par exemple, si vous évaluez le lexique, on commence toujours par ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de nommer spontanément. Puis, en général, sur une planche, par exemple, on ne fait plus ça tellement, mais enfin, si on travaille sur une planche de lexique, il y a forcément des mots qui ne vont pas avoir été convoqués de manière active. Par contre, si après vous lui dites « Est-ce que tu peux me montrer la grenouille ?»« Ah ouais, la grenouille, d'accord. » Et là, on convoque une compétence passive. C'est-à-dire que l'apprenant, il a engrangé, mais nous sommes tous pareils, hein, on a engrangé des choses que l'on peut attirer comme ça, et on peut même accompagner. C'est-à-dire que, par exemple, si vous demandez à l'élève de chercher un mot, il ne l'a pas. Plutôt que de le lui donner d'emblée, vous lui dites, est-ce que c'est un mouton, un crocodile, Et vous pouvez aussi doser, c'est-à-dire que vous pouvez dire des mots qui sont dans des champs lexicaux complètement différents, c'est-à-dire est-ce que c'est un crocodile, un champignon, une table ou autre chose, ou des mots dans le même champ sémantique, pratiquement, et vous allez avoir comme ça, je dirais, un affinement pour faire passer l'enfant de compétences passives, grandes et actives, faibles, vous pouvez le tirer comme ça. Mais ce dont vous parliez, ce qui me paraît essentiel, mais je pense que cette question pourra peut-être, sans y répondre, avoir des éléments de compréhension supplémentaires à la fin de la journée, en tout cas je l'espère, mais ce que vous notez là, c'est la notion de récurrence. On ne peut pas dire qu'un truc est acquis, je dis bien un truc parce que ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des compétences, ça peut être des éléments... toujours pour tout le temps, si ça n'est jamais mobilisé. On verra que la notion de compétence, c'est ce qui est mobilisable, ce qu'on va pouvoir mettre en jeu à un moment. Si ça n'est jamais remis en jeu par une situation où on va solliciter, on risque de le perdre. Sauf le vélo, qui ne se perd jamais. Mais, oui, vous vouliez répondre ? Je vous en prie. Ah non ! Pas seulement ! Pas seulement, parce que le portfolio, ça n'est pas qu'une mesure auto-évaluative de ses manquements. On le verra en fin d'intervention. C'est aussi savoir identifier les choses que l'on sait faire et sur lesquelles on peut s'appuyer. Ça n'est pas que mesurer l'écart entre ce qu'on sait faire et la norme, par exemple, ou ce qu'il faudrait que je retravaille. C'est aussi ce sur quoi je peux m'appuyer, c'est-à-dire ça, je sais faire ça. Je peux m'appuyer dessus. Alors, je pense que là, toutes ces questions, c'est vraiment, on est au cœur du débat. Hein. On est vraiment au cœur du débat sur l'évaluation. Peut-être qu'on va passer à des éléments généraux qui touchent aussi à ça, hein, sur la question de l'évaluation, et puis qu'on essaiera de développer au fur et à mesure les questions qui ont été soulevées là, et puis d'autres aussi. Donc, on va faire un petit point général sur l'évaluation. Je me doute que, suivant vos expériences, vos parcours, vos pratiques, là aussi, il y a une hétérogénéité du public et des parcours individuels, professionnels ou personnels, qui fait que certainement, il y a des choses qui, pour certains d'entre vous, vont être redondantes, déjà connues. Pour d'autres, ça le sera moins. En même temps, je pense que c'est important de le caler, puis surtout pour, comme je le disais tout à l'heure, savoir un petit peu de quoi on parle quand on va parler ensemble. Mais je vais essayer d'aller vite parce que je pense que c'est vraiment un calage théorique de départ, mais qui soutiendra la discussion pour la suite. Alors, évaluer, qu'est-ce que ça veut dire si on s'oriente juste sur le terme ? ça signifie que c'est mesuré, j'évalue la longueur, j'évalue la distance qui sépare un point d'un autre, j'évalue le temps qu'il me faudra pour aller à la gare, voilà. C'est de l'ordre de la mesure. Ça peut être de l'ordre de la mesure. Ça peut être de l'ordre de la mesure. Ça peut aussi être quelque chose d'approximatif. Tu l'évalues à combien, ce truc-là ? C'est une fourchette. C'est en gros. Le terme même évalué intègre cette dimension de... C'est pas bien net. Alors, ça peut être très net, ça peut aussi l'être moins. Et c'est aussi porter un jugement. On retrouvera tout à l'heure des fonctions des évaluations. On est dans des ajustements de ces ordres-là. Il y a bien entendu, pour chacun d'entre nous, en fonction de nos statuts et de nos pratiques, de nos expériences d'apprenants, de nos expériences d'enseignants, des conceptions différentes. Pour faire un petit point individuel, personnel là-dessus, je vais vous inviter à prendre le livret du participant. Vous allez voir le QSORT qui est proposé par André de Peretti dans un gros bouquin qui s'appelle Encyclopédie de l'évaluation. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce bouquin. C'est vraiment, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est vraiment, enfin, je dirais qu'il ratisse très très large, André de Peretti, là-dessus, sur plein de choses. Donc, c'est aussi des éléments, si vous avez animé, pour certains d'entre vous, je le sais, des sessions de formation, formation de formateurs, qui plus est, vous pouvez tout à fait utiliser les outils qui sont pratiquement prêts à l'emploi, en tout cas pour certains. Alors, il y en a d'autres, bon, moi, je ne suis pas d'accord et je ne les utiliserai pas, ou en tout cas pas comme ils le préconisent, mais pour certains, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez bien regarder, prendre 5-10 minutes individuellement pour regarder ce petit QSORT et essayer de voir pour vous-même quels seraient les éléments qui vous sembleraient correspondre, soit le mieux, soit le moins bien. Vous voyez le protocole, il est inscrit. Ce avec quoi vous seriez complètement d'accord, ce avec quoi vous ne seriez pas du tout d'accord, et essayer de voir ce que ça dit un petit peu de vos propres représentations là-dessus. Le but de l'exercice, c'est celui-ci, c'est-à-dire que vous puissiez à un moment dire « ben ça, moi, j'en vois pas l'intérêt » ou voir « ça me révolte, il est hors de question de voir ça comme l'évaluation comme un objet ou un instrument, un outil de pouvoir, par exemple ». Enfin, ça dépend des gens, hein, mais que chacun... Le but de cet exercice, c'est d'essayer de voir comment, pour chacun, on se positionne par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est intéressant, c'est pas intéressant, ça, ah ouais, là d'accord, là, je me retrouve, là, je me dis, ouais, ben, ce que je fais, ou ce que je voudrais faire, là, j'y suis. Alors ça, là, je n'en vois pas l'intérêt, ou ça, alors là, non, pas question, quoi. Et, en fait, c'est aussi permettre... Alors, le fait qu'on le fasse aujourd'hui, il est à deux... Je dirais que c'est un exercice à deux temps. Premier temps, pour vous permettre, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà fait ce travail de réflexion sur l'évaluation, donc vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous remette dedans de manière réflexive de cette façon-là, mais c'est prendre un peu conscience, comme vous le disiez. Moi, je me rends compte que, finalement, je suis à la fois tournée, en tout cas, j'aimerais, dans ma pratique, être tournée à la fois sur la... je dirais l'adéquation objectif enseignement-apprentissage, et puis la personne, c'est-à-dire évaluer l'élève par rapport à une norme institutionnelle collective, et puis aussi, peut-être, ça peut être une traduction, l'évaluer dans les progrès qu'il fait dans son propre apprentissage, ce qui n'est pas toujours facile, on le verra ensuite. Donc, respecter la personne au travers de l'évaluation et en même temps, utiliser l'évaluation comme le moyen d'évaluer mon adéquation, ma pratique professionnelle adéquate par rapport à ce que je prévois. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Hein. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de le voir de manière un petit peu plus précise pour chacun, parce que ça permet, là encore, de manière auto-évaluative, de se dire « Ah ben oui, moi c'est comme ça. » Et puis peut-être que je me rends compte, tiens, par exemple, centré sur le rapport entre l'évaluateur et l'évalué. Ça, est-ce que dans ma pratique, ça a une place ? Est-ce que quand j'évalue, finalement, la relation entre l'élève et moi, ça a de la place ou pas ? Je peux y réfléchir. Hein. Des éléments comme ça. Est-ce que je me centre sur les rapports à l'environnement, c'est-à-dire à des choses qui sont externes ou pas ? Et ça permet de réfléchir pour soi, à la fois ce qu'on privilégie, parce que de fait, qu'est-ce qu'on fait dans toutes nos pratiques ? Il y a des choses dans lesquelles on est à l'aise, qu'on fait volontiers, avec lesquelles on est très familier, d'autres qu'on fait parce qu'on sait qu'il faut le faire, et puis qu'au travers de ça, ben, il y en a peut-être, ou en tout cas des manières de les aborder, qui passent un peu à l'as, ou qui sont un petit peu moins mises en avant. Je pense que ça a une fonction de auto-évaluation de son point de vue, de sa représentation. Et c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser vous-même dans des pratiques de formation avec d'autres enseignants ou avec pour les faire réfléchir, peut-être des gens qui sont moins rompus déjà à la réflexion sur l'évaluation. Pour certains, je peux vous dire, c'est une découverte parfois surprenante. Hein. Quand ils se disent « Ah bon, ben, moi je suis centrée sur moi, quand je fais le compte, je me dis finalement, c'est moi qui suis mis en question dans l'évaluation que je propose à mes élèves. » Attention, ça c'est dur à recevoir en termes d'identité professionnelle, d'image de soi. Hein. Pour certains enseignants, pas forcément de langue, hein, tous les enseignants, ça peut être quelque chose qui est assez difficile. Donc voilà, une double fonction à ce petit Q-sort. Est-ce que vous avez des remarques ou Alors, nous continuons. Je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler, mais je vais le rappeler quand même, que l'évaluation n'est pas une science exacte. Et j'entendais tout à l'heure dire, ben oui, mais finalement, on se pose la question de savoir si évaluer une compétence, ce n'est pas mettre des croix dans des cases. Avec l'idée que peut-être si on met des croix dans les bonnes croix dans les bonnes cases, on aura une vision, une photo de l'élève, de l'apprenant, de ses compétences, des processus qui sont derrière, fidèles. Or, l'évaluation n'est pas une science exacte, d'abord parce que l'apprenant est un apprenant autonome et imprévisible, donc on ne sait jamais ce qu'il va nous faire ou ce qu'il ne va pas nous faire, et puis que nous sommes en tant qu'évaluateurs, évidemment, nous aussi, humains, et donc soumis à des variations de l'un à l'autre, mais aussi par rapport à nous-mêmes. La docimologie que vous connaissez probablement, qui est en fait la mesure... La science de la mesure des évaluations et notamment des notations a fait un gros, gros travail sur ces éléments-là. Bonjour. Je vous en prie. Alors, je vais aller assez vite parce que je pense que vous connaissez, mais vous m'arrêtez si vous voulez soit rappeler une anecdote ou poser une question. Tout d'abord, sur la question du sujet. Quand on prépare des évaluations, quelles qu'elles soient, il faut faire attention au sujet et à l'objectif derrière lequel nous avons le sujet. Par exemple, je donne l'exemple du problème mathématique. Vous allez me dire, on n'est pas prof de maths, certes, mais quand même, quand on fait un problème en mathématiques, comment va être présenté le sujet ? Est-ce que l'on va faire, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, ou soit dans votre carrière d'apprenant, soit avec vos enfants, soit en voyant d'autres enseignants faire. Moi, je me souviens d'un énoncé de problème dans une ZEP avec des enfants qui avaient des difficultés langagières et linguistiques, où on avait, je vous le fais de mémoire, donc c'est pas forcément top, mais c'est un peu ça, Le porte-container arrivant dans le port se met à quai, les dockers arrivent pour le décharger. Ils déchargent tant de containers. Ça demande une explication de texte avant même de commencer l'activité. Alors, si on évalue les compétences mathématiques, en tout cas c'est ce qu'on veut évaluer là, on a déjà un premier parasite qui va être l'évaluation de la capacité à lire un énoncé de problème, donc à la maîtrise de ce type de langue-là. Ensuite, quand on fait un problème, vous savez qu'un problème, ce sont des questions, des problèmes qui s'enchaînent. Si vous piégez la première question, vous piégez tout le reste. Et si vous voulez évaluer les processus en piégeant la première question, vous évaluerez pas grand-chose pour ceux qui se seront ramassés sur le piège de la première question, par exemple. Je donne l'exemple de la dictée, à la fois comme sujet et comme barème. La dictée, quand on fait une dictée en français et dans les autres langues, qu'est-ce qu'on veut évaluer ? Dites-moi, vous, quand vous faites une dictée, qu'est-ce que vous voulez évaluer ? Alors, vous faites des dictées, par exemple, de mots ou des dictées... D'accord. Alors, sur une activité comme celle-ci, quel est le barème que vous allez utiliser ? C'est un pourcentage de réussite, par exemple, ou... Oui, non, mais c'est pas grave, c'est le principe, hein. Et puis, on n'est pas là pour juger vos pratiques, hein. C'est plus pour les mettre au service de la réflexion, hein. Et vous allez évaluer, donc, vous allez compter faux, même, par exemple, je dirais... les verbes conjugués, les articles, bon, tout. Mais votre objectif, c'est la correspondance graphiphonie. Bon. Alors, n'y voyez pas une critique, hein, vraiment. Je vous remercie de partager ça avec vous. Mais en même temps, on voit bien, je pense là, avec cet exercice-là, puis je vois que d'autres disaient la même chose, hein, oui, la correspondance graphiphonie. Si l'objectif, c'est la correspondance graphiphonie, pourquoi va-t-on évaluer, par exemple, les verbes conjugués et certains pronoms personnels, par exemple ? C'est vrai, vous avez raison de le préciser. Voilà, c'est pas comme en français où on va mettre « était » avec « ent », il n'y a pas de correspondance graphiphonie, mais par contre on compterait « faux ». Oui, vous vouliez intervenir ? Non, non. Alors, ce n'est pas du tout mon objectif. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la dictée doit être à bannir. Je dis qu'elle doit être réfléchie dans le sujet et l'objectif qui est celui qui est visé par la dictée et l'adéquation du barème évaluatif. Hein? Si vous voulez, par exemple, moi j'ai vu, par exemple, on va dire... On va travailler sur, on va dire au CE1 ou au CE2, sur le son O. E-A-U, A-U, O en français, par exemple. Hein. Et on va faire une dictée dans laquelle il y a aussi des grosses difficultés de conjugaison, des accords adjectifs, pronoms personnels, articles déterminants, pardon. Voilà. Et tout ça... est évalué, voire noté, voire sanctionné, alors même que l'enseignant, mais vraiment, je dirais sincèrement, dit, on a travaillé sur le O, ou par exemple, à un autre moment, on a travaillé sur le verbe être au présent, ou on a travaillé sur l'accord sujet-verbe, et je fais une dictée pour évaluer ça. Sauf qu'il prend en compte, dans le barème de sa correction, d'autres éléments que ce qu'il est censé évaluer. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, la dictée, c'est à la fois quelque chose qui peut être sommatif sur une compréhension générale de la langue, et donc l'imbrication de la complexité de la langue, donc à ce titre-là, elle n'est pas à bannir, mais si l'on a, par exemple, un objectif de conjugaison, ou un objectif d'orthographe, ou à ce moment-là, adaptons notre barème. J'ai vu des enseignants qui font par exemple, je donne un exemple, hein, qui disent, voilà, je leur demande d'apprendre 10 mots d'orthographe d'usage. On a travaillé les verbes au présent de l'indicatif, verbe du premier groupe, et les accords déterminants non. Eh bien, moi, je vais faire une notation les mots d'orthographe d'usage, les seuls qui seront évalués seront ceux qui ont été appris. Ils seront notés sur 10. Ils ont réussi à 10, ils ont 10. Ils ont réussi à 2, ils ont 2. Il y aura 5 sur peut-être 5 verbes bien conjugués et 5 sur... Et en fait, la note, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est un exemple. Hein, c'est des enseignants qui font ça et qui disent, ben voilà, s'il y a d'autres erreurs, je les note, enfin, je les indique, mais elles ne rentreront pas dans le barème. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Je dis que voilà comment certains enseignants essayent de contourner la difficulté d'un certain nombre d'aspects pour, je dirais, coller un peu mieux aux attendus, aux objectifs qui sont les leurs. Alain, vous vouliez intervenir? Enfin, vous voyez que les choses ne sont pas si simples que l'on pourrait le dire, et que d'autant moins quand... on met des notes, parce qu'on a l'impression que quand on dit il a eu 12 sur 20 en dictée, ou même en mathématiques, on rend compte du processus qui est derrière la capacité, et on va dire il est bon en orthographe, ou il est bon en maths, ou il est... Hein, en plus, ça va... Alors, Loïc, vous vouliez intervenir. Pour vous dire, par exemple, nous avons pour les nouveaux arrivants des évaluations dites en langue d'origine. Donc, on a un panel très important d'évaluation de mathématiques dites en langue d'origine. Le problème, c'est que on évalue avant cela la capacité à lire leur langue d'origine. C'est-à-dire que certains savent faire des additions, des multiplications, des soustractions, un problème quand ils comprennent l'énoncé, mais que quand on va évaluer la compétence mathématique, on le fait au travers d'une plus ou moins bonne maîtrise de la langue écrite. Et ça, ça pose aussi problème. Et vous avez tout à fait raison, à la fois sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que ça peut être sur la forme de la langue, mais aussi sur le fond, c'est-à-dire celle qui va introduire du biais ou du parasitage. Oui, vous vouliez continuer ? C'est vrai que maintenant, un certain nombre de formules sont autorisées dans les calculatrices, pas toutes, mais un certain nombre de formules sont autorisées. Après, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a la formule qu'on a la démonstration qui va avec. Hein. Et si on veut évaluer la démonstration, effectivement, on sait très bien qu'en mathématiques, par exemple, si vous voulez évaluer la compétence, enfin, si vous biaisez, si par exemple vous donnez un calcul avec une multiplication, vous voulez évaluer la multiplication avec retenue. Vous donnez des nombres à deux chiffres, vous évaluez très bien. Vous donnez des nombres à 4 chiffres, vous faites chuter de 40% le résultat. C'est-à-dire que des enfants qui réussissent très bien avec des multiplications à 2 chiffres, il y en a 4 sur 10 qui vont échouer parce qu'il y aura le parasite d'erreur de calcul, s'ils le font à la main, quand il y a 4 chiffres. Quand en plus, et plus on augmente, plus on parasite. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte que quand on veut évaluer un processus, il faut le faire de manière la moins parasitée possible. Parce que sinon, on introduit du biais et l'erreur peut venir d'autre chose. C'est vrai que la question que vous posez là, c'est la place du répertoire général de l'apprenant. C'est-à-dire faire en France comme si, quand on enseigne l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand ou l'occitan, il ne parlait pas aussi le français, c'est le tronquer d'une de ses compétences langagières. Les orientations plurilingues commencent à réfléchir, je dis bien commencent à réfléchir, à utiliser de manière optimale l'ensemble des langues, notamment au service de l'évaluation. Donc si à certains moments, c'est plus intéressant d'avoir une consigne en français, parce que la consigne en espagnol serait vraiment compliquée, rien n'empêcherait, dans une approche plurilingue, de proposer une consigne écrite en français pour un travail qui va se faire en espagnol. Rien n'empêcherait, en allemand ou en anglais, que le texte soit lu, un texte en anglais, en allemand, en espagnol, soit lu, mais qu'on vérifie la compréhension dans une autre langue. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de position de principe, d'exercice type ou de solution type. Le principe, ce serait d'essayer de trouver, en fonction des cas, quelle est la meilleure situation dans ce cas-là, et de ne pas avoir d'autres prétentions que celle-ci. Et quand on prépare un sujet de bac, je pense qu'on peut se poser cette question au moins une ou deux fois. Alors, en cours, c'est-à-dire dans l'enseignement, mais là on parle de l'évaluation, c'est-à-dire...
Hein?
Oui. Moi, je la poserai, je suis d'accord avec vous, hein, mais quand même, je la poserai à tous les niveaux, parce que si, par exemple, on veut vérifier la compréhension d'un texte, on est sur ses compétences passives, c'est-à-dire qu'on comprend plus de choses qu'on est capable d'en exprimer la plupart du temps. Hein, sauf dans certaines circonstances où des apprenants habiles et qui s'auto-évaluent bien savent faire bien avec le peu de choses qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils vont optimiser optimiser le peu d'éléments qu'ils ont pour donner ce qu'on appellerait un vernis expressif. Bon. Mais dans la plupart du temps, les élèves et nous-mêmes, nous comprenons plus de choses. Moi, je sais pas bien parler l'espagnol à part pour aller au restaurant. Par contre, si je lis un texte avec l'intercompréhension entre les langues, ce que je sais, si le texte n'est pas trop compliqué, je vais à peu près comprendre. Et si on me pose des questions, je vais pouvoir répondre en français. Mais évidemment pas du tout en espagnol. Donc je pense que cette question-là, il faut se la poser à tous les niveaux de l'évaluation. C'est la même question que l'adéquation entre est-ce qu'on veut évaluer sa capacité à comprendre, et auquel cas le médium par lequel on va lui permettre de nous dire ce qu'il a compris n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ou est-ce qu'on veut évaluer, en même temps que la compréhension, sa capacité à retraduire en espagnol, par exemple, ce qu'il a compris? Auquel cas, là, effectivement, il faut qu'il réponde en espagnol. Mais si on ne veut voir que ce qu'il a compris, le médium est moins important et peut-être ne doit pas parasiter, si on peut lui permettre d'en avoir un qui parasite un peu moins. Mais le débat est lancé, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça systématiquement. C'est la question que je posais au départ de la langue de scolarisation. Ça fait partie de la langue de scolarisation, toute cette démarche-là, qui est une démarche transdisciplinaire. Hein. Peut-être que Céline, on va laisser la parole à Céline et puis on va continuer. On va peut-être avancer, c'est vraiment très très intéressant. Donc il y a des choses que je vais enlever de ma préparation, parce que déjà on est dans le débat de cela. Hein. Simplement pour vous rappeler aussi le poids de l'affectivité de l'évaluateur et du lien entre l'évaluateur et son l'évalué. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'effet Pygmalion qui a été mis en avant par Rosenthal et Jacobson dans une recherche de très grande envergure menée dans les années 70-80, où ils ont montré que... Alors, j'explique comment ça s'est passé. En début d'année, ils ont dit à certains professeurs, de manière complètement aléatoire, ces élèves-là, ce sont des élèves exceptionnels. Ils sont super bons, ils sont brillants, vous allez avoir avec ces élèves-là des choses formidables. Cela, c'est pas le cas. Ils ont laissé mouliner l'année et on s'est rendu compte... Enfin, ils se sont rendus compte, alors d'une manière un petit peu dure, hein, que, évidemment maintenant, mais ce n'était pas le cas puisqu'il a fallu cette recherche pour le mettre en avant, les élèves dont on avait dit de très bonnes choses ont réussi, c'est-à-dire ce n'est pas qu'ils ont été seulement mieux considérés, mais ils ont réussi à près de 80% plus que ceux qui avaient été dévalorisés a priori. Alors, les explications, les interprétations sont très variables. Hein. Moi, celle qui me semble la plus importante, c'est que les enseignants ont cru sincèrement dans la capacité des élèves à réussir. Et qu'ils, du coup, ils ne se sont pas arrêtés à certaines faiblesses, à certaines fêlures, à certains moments, mais la croyance, puisque là c'est une croyance, puisqu'elle était étayée par, aucun élément objectif dans la capacité à ces élèves à réussir, a permis aux élèves de réussir. Et là où éthiquement on peut se poser la question, c'est que ceux qui n'ont pas été présentés de cette manière-là ont beaucoup moins réussi, voire ont davantage échoué, ce qui laisserait penser aussi que lorsque l'enseignant ne croit pas à la capacité de réussite de l'élève, ça ne marche pas. Bien sûr, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ils ont su allier bienveillance et exigence. Ils ont su donner aux enfants le sentiment qu'ils étaient bien disposés à leur égard, ils étaient bienveillants à leur égard. Du coup, ils ont pu aussi exiger des réussites en disant « mais je sais que tu peux le faire, donc si toi tu ne crois pas que tu peux le faire, moi je le crois, donc je prends le relais sur l'estime de toi qui est peut-être pas forcément très bonne, mais moi j'y crois que tu peux le faire, donc j'exige que tu fasses correctement ce travail et tu y vas ». Donc ce cocktail bienveillance-exigence a extrêmement bien fonctionné et les messages ont été interactifs. Alors évidemment, on ne peut pas forcer, sur injonction, les enseignants à croire dans la capacité de réussite de leurs élèves. Mais par contre, on peut leur dire que quand on croit dans les élèves, ben, ils réussissent mieux. Alors ça paraît aller sans le dire, mais enfin ça va mieux le disant quand même, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Donc attention aussi à ce genre de choses. C'est juste un élément essentiel quand même, quelle que soit la discipline que l'on enseigne. Oui, mais c'est vrai que bon, ça fait un peu Sainte Cécile prier pour nous, mais il y a quand même, je pense, dans ce cocktail bienveillance-exigence, un levier très fort. Hein. C'est-à-dire que si on est sur le pauvre petit chéri, forcément il ne va pas y arriver, on ne va pas l'aider, même si c'est plein de bonnes intentions. Hein. Ça veut dire qu'il faut aussi être sûr qu'on ne l'envoie pas au casse-pipe. C'est-à-dire qu'on va adapter l'exercice. Enfin, que quand on exige, c'est qu'on sait que là, il peut le faire. Et que ce n'est pas lui dire « Vas-y mon gars, vas-y », en sachant que de toute façon, il va se ramasser. Donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir une capacité auto-évaluative de sa connaissance de l'enfant et de ses capacités qui est suffisante. Donc on ne s'y risque pas tout le temps. Hein. On n'est pas « Allez, j'y crois, je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois quand même, t'y vas quand même. Hein. » Donc, mais c'est quand même, ça me paraissait important qu'on puisse le dire ici. On sait qu'il y a dans le parcours, je parle du jeu des temporalités, toujours en docimologie, on sait qu'on n'évalue pas de la même manière dans son propre parcours. C'est-à-dire que moi, quand j'ai évalué au début de ma carrière, d'abord, je n'avais pas cette réflexion sur l'évaluation. Beaucoup moins que ça. On était beaucoup dans la notation, on était beaucoup dans des habitudes institutionnelles, peu réflexives, peu interrogées. En tout cas, c'était le cas pour moi. Évidemment, dans mon propre parcours, mon regard sur mes pratiques évaluatives de professeur des écoles, puis d'enseignant de chercheur, parce que je continue à évaluer mes élèves, mes étudiants, évidemment, mon point de vue a changé. Le vôtre change, évidemment. Mais aussi, quand on évalue, je dirais concrètement, pour avoir été jury de, présidente de jury de bac cette année, j'ai entendu, j'aurais dû avoir mon magnétophone, quoi, hein, j'ai entendu des enseignants dire, bon, ça sort pas des murs, hein, mais oh, la dernière, là, elle m'a fait de la peine, j'en pouvais plus, en plus j'en avais ras-le-bol. Eh ben écoute, elle serait passée en premier, je l'aurais sûrement saquée. Mais là, elle est passée en dernier, j'en avais marre, j'avais pas envie de m'enquiquiner, j'en pouvais plus. Ça, nulle part ailleurs, je ne dirais ça. Mais ça n'empêche que c'est une réalité. Et que quand on corrige des copies, quand on corrige des choses, on est fatigué, on n'en peut plus, on en a marre. Par rapport aux élèves eux-mêmes, si vous passez après, on sait en docimologie, si vous passez après une excellente copie, vous serez dévalué. Si vous êtes une bonne copie après 8 copies minables, vous serez surévalué par la même personne. Ben, c'est-à-dire que, je vous passe la parole après, hein. C'est vrai que ça dépend aussi du nombre de copies qu'on a. Parce que moi, je sais que quand j'ai un faible effectif de copies, je fais une double correction. Mais je peux faire ça sur 15-20 copies. Je ne vais pas le faire sur 90. Ça, ce n'est pas possible. En licence, vous avez des effectifs de 90 copies. Au moment du bac, vous avez des effectifs qui sont très lourds aussi. Donc, on ne fait pas sur 90 copies soi-même une double correction. On va s'en mettre de côté peut-être une ou deux qui nous posent problème et on va les revoir à la fin. Mais bon, là, ça pose problème. Vous vouliez intervenir, lui. Alors, là-dessus, je vais continuer parce que c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'une évaluation critériée avec un barème a priori réduit en partie ces éléments-là. Mais malgré cela, les travaux d'osimologiques montrent que, bien sûr, entre évaluateurs, il y a des barèmes différents. Là, je parle des pratiques de classe, hein, pas des pratiques institutionnelles, bien que. Hein. On sait, par exemple, qu'on va avoir, d'un point de vue affectif, des intérêts, par exemple, tels en langue. Hein. On va demander à quelqu'un de raconter quelque chose. Certains vont mettre en avant la maîtrise des outils linguistiques. Puis d'autres vont dire... Bah oui, mais c'est vrai que c'est peut-être pas top au niveau des outils linguistiques. Par contre, il y a de la fantaisie, il y a quelque chose, il y a un fond qui est intéressant. Donc, sur deux évaluateurs différents, même avec des critères, parfois, certains vont mettre l'accent sur la forme, d'autres vont mettre l'accent sur le fond, d'autres vont essayer de faire un espèce de patchwork pas trop maîtrisé des deux. C'est pas si simple. Tout à fait. C'est vrai que plus on a de descripteurs ou de critères, alors c'est pas plus, ça veut pas dire un grand nombre, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais plus on va réfléchir à ce que l'on veut mettre en avant et ce que l'on va être susceptible d'évaluer, voire plus on va pouvoir le donner avant aux apprenants. Hein. Moi, je me suis rendu compte que dans ma pratique d'enseignant-chercheur, par rapport aux étudiants, nous avons souvent décidé de leur donner avant les barèmes. Donc, ils savent que, par exemple, il y aura 2 points sur la forme universitaire. Il y aura 5 points sur le respect de ci. 5 points sur ça. Voire des éléments extérieurs au travail lui-même. Si, par exemple, on demande de faire... on a ce qu'on appelle des études de cas, c'est-à-dire qu'on accompagne nos étudiants dans leur stage et ils présentent pour préparer leur écrit... Donc, au moment de la présentation, on n'évalue pas la présentation, puisque c'est une évaluation, enfin, c'est une présentation où ils sont en recherche, donc on les laisse rechercher comme ils veulent, donc on n'évalue pas leur prestation. Par contre, on prend en compte les interactions, c'est-à-dire la manière dont chacun dans le groupe va essayer de s'approprier, ou en tout cas de participer à la problématique des autres. Et ça rentre dans le critère du travail dans sa globalité, par exemple. Et ça, c'est dit aux étudiants. Donc, c'est vrai que quand on critérie, quand on met des barèmes, c'est mieux, mais on s'est quand même rendu compte, et notamment dans les sciences dures, que même avec les mêmes barèmes, on peut avoir des différences qui vont jusqu'à 5 points sur 20 pour la même copie, avec le même barème. Mais on nous en... Ça, enfin, je sais pas, ou alors, j'entends, je suis d'accord avec vous, hein, Sandrine, mais j'entends souvent... En philo, c'est normal. Oui. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser ces questions. Oui, vous vouliez intervenir. Après, on va continuer parce qu'on ne va jamais faire la pause sinon. Hein. On ne va pas faire la pause. Donc, désolée, je vous ai menti. Je vous ai menti. Mais ça n'empêche que si vous avez besoin de sortir, sortez quand même. Hein. En général, c'est vrai que il faudrait peut-être faire attention à ce que cette auto-évaluation soit au dernier moment. Hein, c'est-à-dire... pour se laisser la possibilité d'avoir retravaillé, s'être entraîné et avoir une meilleure performance. C'est vrai que la meilleure performance donne une meilleure note, et même si elle est légèrement tempérée par une mauvaise auto-évaluation, globalement, sur la note générale, ça ne sera pas forcément très... ça ne fera pas un différentiel très important, mais quand même. Mais c'est vrai que l'idée d'intégrer une dimension auto-évaluative à l'évaluation me paraît quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, je voulais dire d'une manière générale, parce qu'on a vu dans les travaux de docimologie, mais vous l'avez vu aussi, et puis vous avez des expériences, bien sûr, quand on critérie, quand on fait des barèmes, quand on a des référentiels adaptés, on a plus de chances de proposer des évaluations intéressantes. Maintenant, il ne faut pas qu'on perde de vue que, quelle que soit la situation, un référentiel ne sera pas la réponse idéale à tout le temps. Et du coup, il faut aussi garder, je dirais, ce que moi j'appelle... on va passer les témoignages d'enseignants parce que ce que vous avez apporté là, vous pourrez toujours les voir, ça suffit. Enfin, je veux dire, vous avez suffisamment apporté de choses, vous pourrez voir ce qu'il en est. Un élément, vous connaissez peut-être André Antibi qui travaille sur... Alors, il a été controversé, hein, ce chercheur, sur ce qu'il a appelé la constante macabre. Vous voyez tous, non ? Ouf, enfin une mauvaise copie. J'ai eu peur que la moyenne soit trop élevée. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans ma pratique de professeur des écoles, et même dans ma pratique d'enseignant-chercheur, la question de l'évaluation des barèmes et des notes attribuées aux élèves est vraiment une vraie pression sociale en termes de représentation professionnelle. C'est-à-dire qu'il court quand même un petit peu toujours l'image idéale du professeur sévère mais juste, qui vous sacque tout le monde tellement il est exigeant, mais que tout le monde en sens, parce que lui, sa moyenne, c'est 10, 10,5 sur la globalité de la classe, mais ça veut dire que lui, au moins, il fait bosser les élèves, et lui, au moins, il est exigeant. À l'inverse, celui qui va avoir 16 de moyenne, on va dire, il est laxiste, il bosse pas, il donne tout, il est trop coulant, quand ils vont passer dans la classe supplémentaire, ils vont se ramasser, ça va leur faire un choc. Je ne dis pas que l'un est bien, que l'autre est mal, ou l'inverse. Hein. Je dis simplement qu'il y a des représentations professionnelles, une pression sociale sur l'évaluation, qui va même parfois sur une pression institutionnelle. Parce que j'ai entendu, alors dans un établissement d'enseignement privé, certes, mais quand même, que les enseignants étaient évalués et dans les critères par le chef d'établissement et dans le critère d'évaluation il y avait la moyenne générale de la classe et que si cette moyenne générale était comprise entre 12 et 14 les enseignants recevaient le maximum de points sur cet item. Non, mais c'est une pratique réelle qui date d'il y a 3 ans. Non, je le dis parce que moi, je l'ai vu dans le cadre de mes recherches. Je l'ai vu. Maintenant, peut-être ailleurs. De toute façon, parler de compétition pour un examen, c'est malsain. Enfin, c'est pas de vous que je parle. Hein. Je veux dire, la compétition dans un concours, bien entendu. La compétition dans un examen, non. Bien sûr, c'est le système des courbes de Gauss, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que si vous mettez dans une classe de niveau les meilleurs élèves de toutes les classes de 5e, par exemple, ben vous en aurez des très très bons, vous en aurez des bons, vous en aurez des moyens, puis vous en aurez des faibles, alors que vous aurez sélectionné et crémé les meilleurs des classes précédentes. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe en termes de groupe et d'apprentissage entre les élèves ? Qu'est-ce qui se passe en termes d'évaluation, je dirais, différentielle, hein, puisque on sait qu'on évalue différentiellement, ce que je disais, vous passez après des très bons, ben vous êtes dévalué, vous passez après des mauvais, vous êtes surévalué. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est quand même une réalité pratique de nos pratiques. Vous vouliez intervenir peut-être, non ? Mais c'est la différence, à partir du moment où on les range, les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire on met d'abord la meilleure et puis on termine par la moins bonne, on introduit quelque chose de l'ordre du rangement, donc de l'ordre, donc peut-être d'une compétition, puisqu'elles sont évaluées les unes par rapport aux autres, et non pas en sachant que c'est un examen, l'adéquation du niveau de l'élève, du candidat, par rapport à l'exigence. Et c'est là où il y a, à mon sens, un gros problème, c'est-à-dire que quelque chose qui, dans l'ordre d'un examen, devrait être l'adéquation des compétences, ou en tout cas de la performance de l'élève par rapport à la norme, et que l'on finit par ranger et évaluer et classer les candidats les uns par rapport aux autres. Et ça, à mon avis, c'est un dévoiement de la fonction d'examen. Je crois que le problème, ce n'est pas tellement institutionnellement une injonction institutionnelle, c'est que c'est quelque chose qui est intégré par les enseignants eux-mêmes, comme une représentation. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait, mais moi je le vois en tant qu'enseignant-chercheur, nous avons en licence 3 un cours qui s'appelle « Réflexion sur la langue nouvelle », hein, qui est l'entrée sur le FLE. Donc pour une réflexion, on apprend une langue très éloignée des langues que l'on pratique. Le but, c'est pas de devenir expert de cette langue, mais c'est plutôt de voir au travers de nos processus d'apprentissage, de ce qu'on a mis en œuvre, mobilisé, les difficultés qu'on a rencontrées, comment nos apprenants peuvent avoir. Donc, ça s'appelle bien « Réflexion sur l'apprentissage d'une langue nouvelle ». C'est un travail réflexif. Ce que nous rendent les étudiants, ce sont des dossiers extrêmement intéressants, qui sont bien notés, parce qu'en plus, ils ont avant cela les critères du barème, qu'ils s'y conforment et qu'ils produisent des choses tout à fait intéressantes. Résultat, dans cette option et dans cette unité d'enseignement, la moyenne des résultats est en général entre 15 et 16. Il y a évidemment des étudiants qui ne réussissent pas, souvent parce qu'ils ont une culture éducative qui est très éloignée de cette approche réflexive de la langue, mais pour la plupart, ça fonctionne bien. Nos collègues, parce que c'est une option FLE de la licence, donc de sciences du langage ou de lettres ou d'espagnol, d'anglais ou autre. Nos collègues viennent nous voir en nous disant « ça ne peut plus aller » parce que nous, les étudiants, ils se passent le mot et ils savent que s'ils font l'option FLE et la réflexion sur la langue nouvelle, ils vont avoir une bonne note à l'EC et il y en a qui vont obtenir leur licence alors qu'en littérature francophone ou espagnole ou anglaise, ils sont nuls. Donc nous, ça ne nous va pas du tout que vous mettiez des notes comme celle-ci à un travail, quelle que soit la qualité, parce qu'il est hors de question qu'ils obtiennent une licence d'anglais grâce à une UE de FLE. Et ça, ce sont nos pratiques de tous les jours. On en est des rouages, intentionnels ou non, mais on en est des rouages. Ben, peut-être pas arrête d'évaluer, mais peut-être arrête de noter de la manière dont on note. Et puis que la représentation aussi, en tout cas qu'on questionne nos représentations. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ci ou comme ça et qu'on ait la vérité, mais qu'au moins on ne parte pas du principe qu'à partir du moment où on a mis 15, c'est bon, ou à 12, on a mis, voilà, hein, qu'on soit un peu interrogeant sur ces questions-là. Alors, un petit tableau récapitulatif sur l'évaluation comme mesure, je ne vais pas développer, hein. On en a parlé, vous en parlerez, vous pourrez le revoir. Il y a trois, je dirais, grands champs de l'évaluation qui reprennent un petit peu ce que j'avais dit au départ. L'évaluation considérée comme mesure qui est étudiée par la décimologie, l'édumétrie, voire la psychométrie, c'est-à-dire les QI par exemple, hein, le travail sur les QI, j'ai beaucoup travaillé sur le WISC-R par exemple, c'est un travail de psychométrie, c'est-à-dire qu'on va mesurer la performance à des résultats et à des éléments, et que le QI, c'est pas dans l'absolu, c'est le rapport à une norme. Hein? C'est-à-dire que vous avez un QI normal, normal faible, normal fort, surdouement, parce que dans la majorité des cas, un enfant de 12 ans, à tel exercice, il répond ça. S'il répond ça, vous êtes dans le normal. Si vous êtes capable d'aller plus loin, vous êtes dans un léger surdouement. Si vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin, vous êtes dans un fort surdouement. Parce que les surdoués, c'est-à-dire aux alentours de 130 de QI, ils vont être 2% de la population. Donc, on est là dans une mesure de l'évaluation avec l'idée que les outils sont fiables, objectifs et que on n'a aucun souci d'adéquation. C'est forcément fiable et ça dit des choses de l'ordre de la vérité sur les apprenants. L'idée aussi, c'est que l'erreur, c'est une faute. C'est pas une étape de l'apprentissage qui se construit, c'est une faute. Donc on ne travaille pas les erreurs, on ne s'appuie pas, on n'essaye pas de développer la logique qui amène à faire une erreur, mais on la sanctionne. On peut aussi considérer l'évaluation sous la forme d'une gestion et d'une régulation. Ce sont des déclinaisons de l'évaluation formative qu'on va voir tout à l'heure, où on est centré sur les pratiques, centré sur les procédures, hein, et qui permet de travailler de manière gestionnaire. Hein, c'est-à-dire, par exemple, on va faire des évaluations diagnostiques, puis on va faire des groupes de niveau. Je ne critique pas, hein, j'essaye de donner les éléments de lecture de ces approches. Quelque chose qui est en voie de construction et dont Lynn parlait tout à l'heure, c'est une évaluation qui tourne autour de la problématique du sens. Ça n'est pas un champ encore très exploré. Hein. On y va de plus en plus, qui est autour plus de la personne, comme disait Yoli, que des résultats en termes de performance ou d'adéquation entre objectifs et tâches et réalisation des tâches, dans une approche qui est philosophique, plutôt de l'herméneutique, plutôt de l'ordre de la compréhension, de la lecture de soi et de l'éthique. Là, on est, je dirais, à l'orée de cette exploration de l'évaluation comme problématique du sens. Alors, pour ce tableau, je vous le présente avec l'aimable autorisation de ma collègue Emmanuelle Huvert, hein, qui l'a construit et qui m'a gentiment proposé de l'utiliser. On va aller très vite sur les fonctions des évaluations. Hein. On va reprendre les termes des évaluations en fonction. On rentre là dans les éléments des évaluations en tant que pratiques évaluatives. Hein. Donc, les pratiques évaluatives ont plusieurs fonctions. Une première fonction que l'on pourrait dire prédictive ou pronostique, diagnostique. Donc, par exemple, c'est le cas, par exemple, des nouveaux arrivants dont je parlais tout à l'heure, pour lesquels on va faire des évaluations pour mesurer, autant que faire se peut, les acquis scolaires antérieurs dans un pays étranger, donc qui se font, par exemple, en langue dite d'origine. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on fait un travail de recherche avec Emmanuel Huvert sur ces évaluations en langue dite d'origine et on soulève un nombre assez incalculable de questions. C'est aussi cette fonction de l'évaluation, elle peut être préalable à une orientation. C'est le cas pour les bilans de compétences, c'est le cas pour les évaluations qui sont menées par les CIO, par les COP, hein, qui, quand ils veulent proposer une orientation dans un, par exemple, en lycée professionnel ou dans une orientation particulière. La fonction certificative ou sommative de l'évaluation, ben c'est celle qui est censée faire la somme de ce qui a été appris. Attention, pas ce qui a été enseigné, pas forcément ce qui a été enseigné. Et c'est là où on voit, on revient aux éléments, effectivement, on peut enseigner jusqu'à B1, mais évaluer que jusqu'à A2 ou choisir autre chose. Donc ces évaluations, elles sont destinées à faire la somme, c'est-à-dire rendre compte à la fin d'un cycle, à la fin d'un cursus, vous avez travaillé sur tel champ lexical, vous avez travaillé sur telle approche dans le champ communicatif, vous faites une évaluation sommative pour voir où les enfants en sont, hein, ce qu'ils ont acquis, de ce qu'ils ont appris. On est souvent sur la compétence, c'est-à-dire qu'on dit que c'est censé faire la somme des compétences. Hein? Attention, parfois, vous le disiez tout à l'heure, Loïc, c'est plus de l'ordre de la performance. Parce que on peut dire que quelqu'un qui réussit un exercice, on sait qu'il sait le faire. Quelqu'un qui échoue un exercice, on peut juste dire qu'il a échoué, mais on n'est pas sûr qu'il ne sache pas faire. Hein. On sait qu'il a échoué. Peut-être qu'il sait quand même faire, mais il a quand même échoué. Par contre, s'il a réussi, on peut penser que, à moins qu'il ait copé sur le copain ou qu'il ait un éclair de génie qui va sombrer le lendemain, il y a des chances qu'il sache faire. Ça, j'insiste un peu là-dessus parce que souvent, on met le terme échec à toutes les sauces. Hein. Moi, j'ai été professeur des écoles. Le gamin qui rentrait en sixième au mois de février, j'entendais la maîtresse dire « Il est en échec en lecture. Il ne sait pas lire au mois de février en CP. Il est en échec en lecture. » On disait la même chose au niveau du CM2. « Ah non, il est en échec, il ne peut pas passer en sixième. » On disait la même chose au moment du brevet, puis après, à 17 ans, parce qu'il avait raté son bac, il est en échec. Attention à utiliser le terme échec avec précaution. Hein. C'est pas parce qu'on échoue à une épreuve, à une évaluation, à une activité, qu'on fait une mauvaise performance ou une contre-performance qu'on ne sait pas faire. Hein. Donc, on n'est pas forcément en échec parce qu'on a échoué quelque part. L'intérêt de la fonction certificative ou dite sommative, c'est qu'elle permet de situer la performance de l'élève par rapport à une norme collective. Par exemple, nous avons besoin à l'université pour entrer en master, nous avons beaucoup d'étudiants étrangers, mais nous avons besoin qu'ils aient un niveau C1. S'ils n'ont pas un niveau C1, on ne les prend pas. Donc, pour nous, quand ils attestent d'un niveau C1, ils rentrent dans la norme qui nous permet de les accepter comme candidats. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Hein. Je dis que c'est comme ça. C'est la norme institutionnelle. Il faut qu'ils aient un niveau C1. Donc, s'ils n'ont pas niveau C1, ils ne viendront pas. Ou si au moment où ils ont passé leur examen, ils ne l'ont pas obtenu, eh bien, ils ne viendront pas. Il va falloir qu'ils se le recognent. La fonction, je dirais peut-être, je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, hein. Elles sont intéressantes d'un point de vue, je dirais, institutionnel, collectif. La fonction la plus intéressante sur le plan de la personne, c'est la fonction formative de l'évaluation, que souvent dans les pratiques de classe, on utilise au service de la différenciation pédagogique. En langue, ce n'est pas facile de faire de la différenciation pédagogique. Parce que on a besoin d'avoir des activités variées. On peut faire plusieurs types de différenciation pédagogique. On peut déjà différencier nos manières d'accéder aux apprentissages. Faire des choses en groupe, des choses individuelles, des choses à l'oral, des choses à l'écrit, des choses en communication non verbale. C'est une première approche de la pédagogie différenciée. On peut ensuite, à partir des évaluations dites formatives, adapter notre intervention, nos supports, les consignes, parce que souvent, quand on fait de la pédagogie différenciée, on pense à proposer des supports différents en fonction des difficultés ou des réussites possibles des élèves. Ce à quoi on pense moins souvent, c'est de proposer le même support, mais avec des consignes différentes et un degré de guidage différent. Souvent aussi, on va avoir tendance à considérer qu'on a, nous, en tant qu'enseignants, à être proches des élèves les plus en difficulté et à laisser en autonomie, souvent en travail à l'écrit, les élèves les plus en avance. Sauf que la pédagogie différenciée, c'est au service de tout le monde. Et aussi au service des élèves les plus en avance, et aussi au service de l'autonomie des élèves les plus en difficulté. Parce que si à chaque fois qu'on est présent pour eux, qu'on fait de la différenciation pédagogique, on guide toujours les élèves en difficulté, il ne faut pas s'étonner si après on dit « mais ils ne sont pas capables d'être autonomes ». Donc il y a des moments où on peut aussi réfléchir à proposer aux plus faibles des activités à faire en autonomie pour avoir du temps à consacrer à des élèves qui peuvent aller plus loin. Donc cette évaluation formative, elle est intéressante parce que elle permet pour l'enseignant d'adapter sa présence, son degré de guidage, les supports, mais aussi, si elle est accompagnée par une auto-évaluation formative, d'admettre pour l'enfant qu'il a besoin de telle chose ou que ça, il doit le faire tout seul. Donc, une compréhension de ce qui lui arrive. Le problème, souvent, quand on évalue, puis même quand on pratique, c'est que les gamins, ils ont l'impression qu'on les trimballe, on leur dit « tu fais ci, tu fais ça ». Ça pose un problème de sens parfois. Il faut, pour faire un exercice fastidieux, il faut quand même avoir, je dirais, la motivation chevillée au corps pour le faire si on n'en voit pas l'intérêt. Si on a travaillé par une auto-évaluation formative sur le besoin qu'a tel enfant de travailler telle chose et qu'il se dit « bah oui, là, effectivement, ça ne va pas, il faut que je travaille », il acceptera beaucoup plus volontiers de faire des exercices fastidieux que si on lui dit « il faut que tu le fasses », « oui, bah, de toute façon, j'y arrive pas ». Alors, évidemment, c'est simple à dire, après, il faut le faire dans la réalité concrète de la mise en place de la classe. Parce que gérer l'hétérogénéité en langue, c'est difficile parce qu'on a besoin d'oral, c'est pas toujours facile de pouvoir jouer là-dessus. Tout à fait. Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai travaillé beaucoup donc, avec mes élèves non francophones qui étaient dans des classes ordinaires, puisque moi, je les sortais des classes pour les séances d'enseignement. Et je travaillais avec mes collègues des classes pour gérer cette hétérogénéité. Donc, ils avaient effectivement des ordinateurs avec des casques, avec des baladeurs pour pouvoir continuer à travailler. Mais ça n'exclut pas la possibilité de travailler sur des supports qui sont des supports pas forcément accessibles dans leur intégralité. Mais on peut travailler à partir des compétences partielles des élèves qui n'ont pas forcément effectivement le niveau B1, mais qui peuvent, à partir d'un document qui va être exploité peut-être au maximum de ses possibilités pour le B1... Non, oui. Alors, c'est là où je me suis certainement mal expliquée. Je veux dire que l'évaluation formative, elle est au service de la différenciation pédagogique. Je ne suis pas toujours très à l'aise, je vous le dis, sur la question d'évaluation différenciée. J'en fais toujours, mais le problème de l'évaluation différenciée, c'est qu'elle permet bien à l'élève de se situer par rapport à sa norme personnelle, mais elle ne permet pas à l'élève de se situer par rapport à la norme collective. Donc c'est important, par exemple, un élève qui arrive, qui ne parle pas, il arrive dans une classe, il n'a jamais fait d'espagnol, en LV ou d'anglais, en LV1, il arrive, les autres ont déjà fait 3 ans, il est en 4e, il déménage, il arrive, il n'a pas fait, et il n'y a que anglais LV1. Comment on fait pour évaluer? On ne va pas pouvoir lui faire passer les mêmes évaluations qu'à ses camarades. Donc, il va falloir les personnaliser, sauf qu'il y a un moment où il va falloir que ces évaluations personnalisées rejoignent les évaluations de la classe ou l'année suivante, mais il y a bien un moment où il va falloir qu'il se confronte à la norme des autres aussi, puisqu'il va passer donc cette différenciation au moment des évaluations, elle n'est pas simple, parce que s'il y a l'adéquation entre les progrès que l'enfant fait, faire une dictée avec 70 fautes, c'est pas pareil que faire une dictée avec 20 fautes, même si on a 0 ou 2, mais par contre n'empêche que si le barème il est le même pour tout le monde, il aura 0 ou 2. Et en même temps, il faut bien qu'il se rende compte qu'on ne va pas lui mettre 15 sur 20 parce qu'il a fait que 20 fautes, si le barème n'est pas celui-là. C'est ce qu'on verra cet après-midi, c'est-à-dire qu'on rentrera vraiment plus... C'est vrai que de plus en plus, on va vers... en tout cas, pour les praticiens, enseignants praticiens, pas forcément pour le DELF scolaire ou des choses comme ça, vraiment... DELF ou autres fonctions certificatives, on va vers des évaluations par scénario, mais pas forcément par scénario, ça peut être par compétences actionnelles, ça peut être... On verra ça cet après-midi. avant que l'on se quitte, parce que j'ai bien compris qu'il faut qu'on moins une, moins deux, un petit élément. Oui, pardon, vous vouliez intervenir. Alors, pour résumer, il y a plein de définitions de la compétence. Là, c'est pas une définition de la compétence dans le champ des langues. Hein, c'est le Boterf, Guy Le Boterf, qui a avancé cette définition, où il dit que la compétence, elle n'existe que dans l'acte. Elle s'actualise par une adaptation au contexte. Mais dans ce que dit Le Boterf, c'est un contexte qui est extrêmement large et complexe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il est en train de se passer quelque chose de l'ordre de la compétence. Mais bien malin, celui qui pourra dire et définir de manière au cordeau ce que c'est, ça c'est de la compétence. Il y a une dimension de mobilisation potentielle de la compétence. C'est-à-dire que on parlait de transférabilité. On peut probablement perdre des compétences ou ne plus savoir les mobiliser, c'est certainement vrai. Mais pour beaucoup, la différence entre la compétence et ce que je disais tout à l'heure, les savoirs de l'ordre de l'avoir, c'est que justement, quand c'est rentré dans la compétence, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on peut, je dis volontairement quelque chose, parce que je ne sais pas comment dire mieux que ça, quelque chose que l'on va être capable de mettre en acte de manière adaptée, dans des contextes variés et dans la complexité de la compétence. Ce que l'on peut voir de la compétence, c'est ce que l'on peut observer, ce que l'on va dire les indicateurs, les descripteurs, ce qui en fait est mobilisé. Donc la compétence, c'est ce qui est mobilisable, dont en fait on ne verra jamais grand-chose, si ce n'est qu'on verra qu'il y a des symptômes, dans le bon sens du terme, de la compétence à l'œuvre, qui sont les observables et les indicateurs. Voilà pourquoi les référentiels, les items, les descripteurs et du SCOL ou du CECRL sont intéressants. Parce qu'ils disent, tiens, ben quand je sais, quand je comprends un petit énoncé d'un journaliste à la télé sur un sujet que je connais un peu, je suis à tel niveau. Donc je dis que ça, c'est un indicateur de la compétence qui peut être à l'œuvre chez moi ou chez mon élève. Donc on est bien sur une distinction entre la compétence mobilisable et ce qui est mobilisé, qui est de l'ordre du descripteur ou de l'indicateur. Donc ce qu'on mobilise, ce sont des savoirs ou des connaissances, donc des choses que l'on sait, mais qu'effectivement on peut oublier s'il n'y a pas récurrence, s'il n'y a pas remémoration. Des habiletés, je sais faire ça, je sais utiliser, je sais travailler, suivre telle procédure pour un raisonnement, pour des éléments, je sais me présenter, je sais faire des choses. Et puis, des stratégies, c'est-à-dire que face à une situation, ben, je vais savoir m'y prendre comme ci ou m'y prendre comme ça. Si je sais que je ne suis pas trop à l'aise à l'oral, je vais peut-être essayer de passer par l'écrit. Si je sais que justement je ne suis pas à l'aise à l'écrit, mais que j'en vais en avoir besoin, je vais peut-être travailler davantage. Et j'organise ma connaissance de moi par rapport à l'objectif qui m'est fixé. Donc je développe des stratégies. Et des stratégies qui ne sont pas forcément imposées par d'autres, hein, qui me sont propres. Par exemple, moi, avec les élèves non francophones, vient un moment où je ne les suivais plus. Ils n'avaient plus besoin de mon aide. Mais les enseignants de classe pouvaient avoir des discours différents. Certains me disaient, par exemple, « Écoute, celui-ci, c'est bon, il parle très bien, il comprend bien, mais il est encore fragile et je sais que s'il ne comprend pas quelque chose, il ne va pas savoir soit me le dire, soit interpeller un camarade, soit aller chercher dans un dictionnaire. » Il n'est pas très autonome par rapport à ces difficultés qu'il pourrait avoir. Donc, je préfère que tu le gardes encore un peu. Et d'autres m'auront dit, Écoute, c'est pas toujours impeccable, mais par contre, il n'hésite pas, il vient me voir, il demande au voisin, il va chercher dans les bouquins. Donc, ce qu'il sait faire maintenant, je pense que ça suffit parce que le reste, il saura se donner les moyens d'aller chercher ce qu'il ne sait pas. Donc, des attitudes en termes de stratégie qui sont différentes et qui conditionnaient la poursuite d'un projet pédagogique ou non. Les attitudes font aussi partie des éléments de la compétence. Alors, on est souvent frileux par rapport à ça, parce que ça rentre souvent dans l'affect et dans la personnalité affective des gens. En même temps, dire qu'il ne faut pas faire d'affectif quand on est dans une relation humaine, franchement, c'est non seulement un non-sens, mais en plus, c'est contre-productif. Parce que ça veut dire faire fi ou nier des choses qui se passent réellement. Donc, il vaut mieux faire avec et travailler les dimensions affectives qui peuvent nous gêner ou au contraire nous aider, plutôt que de faire comme si elles n'existaient pas. Et l'attitude d'un élève, ou notre attitude par rapport à un élève ou par rapport à une langue, c'est pour ça que le travail sur les représentations est extrêmement important. Par exemple, on voit que des enseignants de langue qui ont une représentation du bon locuteur, là vous pourrez aller voir dans le livret hein, les témoignages des enseignants, mais je pense à des choses que moi j'ai entendues de mes étudiants qui me disent, ah ben moi un bon locuteur, il ne faut pas qu'il fasse de faute de syntaxe hein. S'il faut des, pour moi vraiment on maîtrise bien une langue quand on ne fait pas de faute de syntaxe, parce que la grammaire, franchement c'est important. Il le dit, mais ce qu'il dit, ça a un impact très fort dans sa pratique d'enseignant. C'est-à-dire que même s'il travaille sur le lexique, il suffit qu'il y en ait un qui fasse une fausse de syntaxe, même si ce n'est pas le sujet, paf, il y tombe dessus, il l'arrête, ah non, mais attends, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Dans ses corrections, dans ses évaluations, il surévalue toujours positivement des écrits qui sont syntaxiquement corrects, même si l'objectif qui était censé être évalué n'est pas bon. Et à l'inverse, si par exemple on travaille sur l'expressivité des sentiments ou quelque chose comme ça, et que le travail est particulièrement expressif, il va considérer que la forme syntaxique, bah oui, c'est bien ce qu'il a fait, mais enfin bon, c'est pas possible quoi. Non, c'est pas possible, moi je sanctionne un truc comme ça. Ou inversement, bon là je parle d'un exemple que je connais, mais il y en a plein. Un petit... Vous le connaissez peut-être, hein? Donc je ne le précise pas, vous avez juste la référence. Je ne vous l'ai pas mis dans le livret parce que ce n'est pas la peine. Hein? Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez lu cet ouvrage. Tagliante, mais vous le retrouverez. Qu'est-ce qui s'est... Ah ben, je n'ai pas fait du tout ce qu'il fallait. Je pense que j'ai bidouillé. Voilà. Quelques éléments, mais on y reviendra, donc ne notez pas celui-là, on reviendra sur des activités plus en termes de langue. Par rapport à certains types de savoir, il y a des formes d'activités évaluatives qui sont plus adaptées que d'autres. Hein. C'est sûr que si vous voulez savoir, vous travaillez sur l'expression orale et que vous faites faire un QCM, ben, ça va sans dire que... ça ne marchera pas, enfin c'est pas adéquat, mais bon, là j'insiste pas parce que vraiment c'est vraiment très très proche pour vous. Attention, quand on prépare une évaluation, à bien réfléchir, particulièrement dans tout ce qui est évaluation de la communication, qui va émettre le jugement? Est-ce que c'est l'enseignant seulement? Est-ce que c'est l'enseignant et l'apprenant, hein, qui dit par exemple, ben moi je trouve que finalement, en grammaire, sur ce point-là, moi je suis plutôt bon. L'enseignant va dire, oui, t'as raison, t'es même plutôt très bon. Ou, ben dis donc, je trouve que non, t'exagères, t'as vu l'exercice que t'avais fait la dernière fois, ou alors t'as pas fait tout ce qu'il fallait, mais là franchement, je peux pas dire que t'es vraiment très bon là-dessus, moi je suis pas trop d'accord là-dessus. Ou il y a de la négociation, de la discussion possible. Voir l'auto-évaluation, c'est-à-dire comme dans les portfolios, moi je pense que je suis capable de faire telle et telle chose. Pour le C2I, hein, pour le C2I c'est pareil. Qu'est-ce qu'on juge? Attention, soyons attentifs. Est-ce qu'on va juger la démarche ou est-ce qu'on va juger le résultat? C'est-à-dire que si on travaille sur des transformations syntaxiques ou sur des éléments comme ça, est-ce qu'on se dit, bon, ce qui est important, c'est de savoir s'il a compris comment ça marche, ou est-ce qui est important, c'est que la phrase soit correcte ou que le résultat soit bon? Quels sont les critères de référence, les descripteurs, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on va considérer comme signifiant? À quel moment on va dire, ça, pour moi, ça signifie que c'est validable pour telle ou telle chose. Moi, j'estime que si par exemple, je lui dis, va dans la classe d'à côté, tu demandes au professeur d'espagnol, en espagnol, qu'il te donne tel document et qu'il revient avec le document, est-ce que moi, j'estime que parce qu'il revient avec le document, ça valide le fait qu'il a su communiquer suffisamment pour revenir avec le document? Ou est-ce que j'ai besoin de dire à mon collègue enseignant espagnol, bon, alors qu'est-ce qu'il t'a dit pour savoir si je le valide ou pas? Et puis relativiser, mais c'est ce qu'on a fait toute la matinée, et là, il faut que j'arrête